Dans le cadre du plan académique de formation, les conférences et ateliers donc organisés par l'IREM de Lille auront lieu les 23 et 24 avril, c'est-à-dire très très bientôt. Et nous allons présenter ces journées avec M. François Recher, directeur de l'IREM. Bonjour.
Bonjour.
Et Valerio Vassallo, qui est maître de conférences en mathématiques et responsable de l'organisation de ces événements. Bonjour.
Bonjour, René.
Voilà, donc les mathématiques sont à l'honneur régulièrement sur cette université, c'est bien naturel. Et de grands événements comme ceux qui nous amènent à parler de ces mathématiques et autres sciences, ces journées académiques de l'IREM, sont là pour justement porter haut le flambeau des mathématiques, mais aussi des autres sciences. On va peut-être un petit peu définir ce qu'on pourra donc entendre, voir, de quoi il est question dans ces journées.
Alors, en tant qu'organisateur, je pourrais dire que déjà que ça a pris plusieurs mois, l'organisation de ces journées, parce que, justement, la question, c'était dans quelle direction on va se diriger. Et pour cela, bon, je me suis entouré d'une dizaine de collègues, donc professeurs de collège, de lycée, d'université, bien sûr, avec l'aide du directeur de l'IREM aussi, et définir un peu les directions où chercher les spécialistes qui pouvaient venir alimenter la réflexion sur ces sujets-là.
Donc, François Recher, donc l'IREM, on peut peut-être présenter cet institut.
Oui, l'IREM, c'est l'Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques. Donc, c'est un institut qui est rattaché à l'UFR de mathématiques de notre université et qui a pour mission la recherche sur l'enseignement, la formation et aussi la production à la diffusion de supports, de documents à destination des collègues, qu'ils soient du primaire, du secondaire ou même du supérieur, puisqu'il y a notamment une commission inter-IREM qui s'occupe des liaisons entre le lycée et l'université. Donc c'est dans ce cadre-là que de mission de formation que nous assurons pendant 2 jours ce stage colloque, c'est une forme un petit peu hybride, entre un stage avec que des conférences ou quelque chose de mixte. Donc le matin, nous aurons des conférences, en tout il y aura 5 conférences, et puis l'après-midi, ce sera beaucoup plus près des préoccupations des collègues par le biais d'ateliers qui se feront là beaucoup plus en petits groupes.
C'est vrai que le plan académique de formation comprend de nombreuses séquences de formation d'enseignants qui se retrouvent à des moments différents de l'année. Hein, on va dire il y a peut-être 50, je ne sais pas, il y a beaucoup de...
Disons que le plan académique, c'est quelque chose d'assez monumental pour l'académie. L'IREM prend sa part en organisant 20 de stages de 2 jours. Donc on touche quand même un assez gros public donc qui se déplace sur notre université pour participer à ces stages de formation qui sont souvent co-encadrés à la fois par un universitaire et par des collègues du secondaire qui s'investissent dans cette mission de formation continue.
Alors c'est vrai que le fait de regrouper sur 2 jours presque toutes les problématiques liées aux mathématiques et d'autres sciences, c'est aussi l'occasion de mieux se connaître, de faire un peu groupe autour de ces disciplines.
Oui, alors loin de nous l'idée de vouloir balayer en quelques heures tous ces domaines, toute cette richesse et toute cette complexité que l'on a pu un petit peu appréhender en préparant ces 2 journées. Mais c'est aussi l'idée de rassembler, nous serons à peu près 200 demain, des collègues venus d'horizons différents, ils ont accès à différents médias, mais le fait de se rencontrer dans un lieu pour échanger et puis recevoir cet apport des collègues dans les conférences ou les ateliers, c'est vraiment un moment important, je pense, pour la plupart d'entre eux.
Ces collègues, ils enseignent dans quel type d'établissement ?
Ils enseignent dans des collèges ou des lycées de la région. Ils se sont inscrits au plan académique de formation pour suivre cette formation, donc qui est une formation offerte par le rectorat via l'IREM. Et donc, ils viennent de divers endroits de l'académie et ils enseignent à différents niveaux.
Les problématiques sont plus disciplinaires que pédagogiques ?
D'habitude, dans nos stages, tout au long de l'année, on a une mission de formation continue en mathématiques. Donc là, on est vraiment très mathématiques. Mais il nous a semblé, l'année dernière, nous avions... le thème était art et mathématiques. Donc là, c'est aussi une ouverture. Donc l'idée de ces journées, c'est à la fois de donner un apport et une vision d'ensemble qui est un peu plus, je dirais, un peu plus haute et un peu plus légère, puisqu'on ne peut pas demander à nos conférenciers de rentrer dans les détails, que ce soit dans l'histoire, dans... Par exemple, on parlera aussi médecine, côté mathématiques et médecine, ou bien théorie des cordes et structure de l'univers. Donc c'est des choses qui sont très complexes. C'est simplement d'éveiller en quelques heures les collègues à des problématiques qui sont celles de chercheurs très pointus, très avec des domaines très très restreints, très spécifiques, et donc relativement inatteignables pour le commun des mortels. Et l'idée, c'est de faire baigner durant ces deux jours les collègues dans un climat d'approfondissement, d'ouverture. Donc cette année, nous avons choisi mathématiques et autres sciences. Là aussi, on ne peut pas tout balayer, mais c'est donner du goût et peut-être mettre nos collègues en route sur des nouveaux chemins.
Valerio Vassallo, les mathématiques servent beaucoup aussi aux autres sciences. Donc ces rencontres, en fait, c'est aussi l'occasion de voir les passerelles.
Oui, et dans les deux sens, c'est-à-dire les mathématiques qui servent aux autres sciences, mais les autres sciences qui ont des besoins et qui donc demandent de développer des branches de mathématiques qu'on ne connaissait pas auparavant. Donc les mouvements intellectuels vont dans les deux sens, c'est-à-dire les mathématiques connues vont aider les autres sciences et les problèmes à résoudre dans d'autres sciences impulsent le développement des mathématiques. Et c'est un peu le sens des interventions qu'il y aura pendant ces deux journées.
Alors c'est vrai qu'en recherche, par exemple, évidemment, à un niveau d'abstraction, là effectivement on a des évolutions de ces rapports, de ces rapprochements, de ces techniques, on va dire scientifiques ou mathématiques. Au niveau des collèges et lycées, qu'est-ce qui peut être intégré ou mis à niveau, ou mis à jour par rapport aux pratiques cognitives?
L'idée est de faire quand même passer les messages que les mathématiques sont bien vivantes. Alors, il est vrai que la plupart du temps, le temps est un peu tyrannique dans l'enseignement, au sens que pour appréhender comment les mathématiques nous aident quelque part à mieux vivre, il faut des préliminaires. Alors, pour introduire ces préliminaires, on prend du temps, et finalement, pour prendre ce temps, on finit pour ne pas donner les applications de la vie courante. Dans ces journées académiques, l'idée, c'est aussi de fournir aux professeurs des aspects d'application qui pourront réinvestir dans la classe, disons, assez rapidement. Alors, bon, donner un exemple concret, c'est, par exemple, il y aura un atelier sur les GPS. Alors, les GPS, tout le monde connaît cet outil, mais évidemment, les gens ignorent que c'est grâce aux mathématiques que nous pouvons aller du point A au point B. Alors, bon, des fois, c'est vrai que GPS, il se plante aussi.
Ça arrive.
Mais
surtout
ça arrive aussi.
Il y a un incendie ou des travaux.
Oui, ou s'il n'y a pas eu des informations, par exemple, des nouveaux sens interdits dans un quartier, alors il peut être resté sur des vieilles informations. patient. C'est ce qui est arrivé à des amis récemment.
C'est bon d'avoir quand même une carte de secours.
C'est quand même bon, oui, d'avoir une carte de secours, la règle, le compas, alors peut-être des anciens instruments. Mais lors des interventions chirurgicales, c'est très bien d'avoir, par exemple, toute une imagerie médicale qui permet d'avoir des temps d'intervention qui sont beaucoup plus réduits. Et d'où l'intérêt aussi d'étudier ce qu'on appelle les nanotechnologies pour intervenir dedans. Alors là, sur les campus, on a aussi des experts dans ces domaines. Et évidemment, on n'a pas été chercher aussi des experts uniquement en dehors de notre université. On les a cherchés aussi dans notre université, au département de physique et au département de biologie.
Donc les mathématiques, par exemple, ça s'enseigne. Ça s'enseigne dans les établissements à partir de programmes qui sont élaborés, je pense, au niveau national et aussi qui sont élaborés en fonction des classes et peut-être des filières. Est-ce qu'au-delà de ces programmes, il y a une place de liberté, pas forcément d'interprétation, mais une part laissée aux pédagogues pour amener justement à ces élèves des éléments mathématiques ou des réflexions mathématiques qui transcendent ou qui vont peut-être au-delà de ce qui est purement technocratique?
Oui, 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 il y a cette place, disons, bon, c'est vrai que des fois, comme je disais, le temps est tyrannique, donc il faut faire... Il faut quand même enseigner le programme, mais disons, il y a quand même aussi des consignes d'aller un peu autour du programme, pas se contenter uniquement d'enseigner ce qu'on appelle le socle, hein, mais d'aller un peu au-delà, pour montrer que finalement cet apprentissage s'en sert dans nos vies de tous les jours et ce n'est pas quelque chose de désincarné, donc de notre quotidien. Donc il y a cette liberté et il faut l'apprendre. Disons, nous, on invite les enseignants à prendre cette liberté. Alors quand je dis nous, c'est parfois on a des universitaires qui interviennent ou dans les stages de l'IREM ou dans les dispositifs de l'UFR des mathématiques itinérantes. Et bon, pour ce qui me concerne, en tout cas, quand j'interviens dans ces dispositifs, donc la preuve qu'il y a une liberté, parce que les professeurs des collèges et lycées peuvent inviter des universitaires dans leur établissement, ben, on essaie de les inviter à se donner cette liberté de penser. Et en effet, en tout cas, ce qu'on développe beaucoup au sein de l'IREM de Lille, c'est de pousser les enseignants à devenir, les enseignants du secondaire, des enseignants chercheurs, comme nous. C'est-à-dire, bon, ils se posent des problèmes, des questions, alors ou à l'intérieur des mathématiques, ou dans la vie de tous les jours, et essayer ainsi d'apporter des réponses, même si ces questionnements n'est pas inscrit dans les programmes.
Donc, peut-être certaines personnes ont du mal à comprendre que les mathématiques, qui sont des choses très rigoureuses, sont aussi sinon des objets, du moins des environnements de plaisir intellectuel. Hein. On peut prendre plaisir aux mathématiques, la preuve c'est que vous y êtes et que ça n'a pas l'air de vous avoir trop traumatisé.
Non, on n'a pas l'air traumatisé, même... On est même très heureux de pouvoir vivre ça au quotidien.
Alors d'où vient le plaisir de la rigueur, en quelque sorte? Parce que c'est assez imparable, les mathématiques, il y a des raisonnements, il y a des choses assez difficiles.
Peut-être que cette rigueur est en elle-même un attrait. Donc c'est de se mettre en chemin et puis d'essayer d'être le plus précis sur ce chemin. Mais effectivement, il y a encore plein de chemins qui sont à découvrir. Et c'est cette mise en route aussi qui crée ce désir d'avancer, ce désir de connaissance. C'est vrai que je pense que Valérie sera d'accord avec moi, on partage quand même beaucoup de choses. Et surtout cette envie de dire qu'on a un métier qui est fabuleux, puisqu'on peut continuer à avancer sur ce chemin, avec une liberté éventuellement de chercher, une liberté d'aller lire, d'aller s'informer sur un sujet, et de l'apprécier dans la durée, hein, la durée dont parlait Valérie. On a aussi cette possibilité de faire ça dans notre université, de prendre le temps de connaître les objets mathématiques que l'on découvre en profondeur et de tenter de vraiment les cerner.
Chaque étape, c'est aussi une victoire sur soi-même.
Victoire sur soi-même, je ne sais pas, mais je pense que la chose qui est la plus importante pour moi, à la fois en tant qu'universitaire, mais aussi en tant que directeur d'IREM, c'est d'essayer de remettre dans notre enseignement et de faire passer dans notre enseignement le plaisir que nous-mêmes avons à faire des mathématiques. Et ça, je pense que les jeunes ne sont pas du tout hermétiques à ça, et bien au contraire, je pense qu'ils ont aussi cette soif de savoir à quel point ce sujet-là, qui peut avoir des connotations difficiles, rigueur, rébarbative, ancienne, parce que ça aussi, c'est bien colporté dans notre société. Si on réussit à changer un peu ce regard et à montrer et à transmettre le plaisir que l'on a à faire des mathématiques, je pense que les jeunes seraient prêts aussi à nous suivre sur ces chemins.
Après les mathématiques, d'une manière globale, il y a énormément de champs. Hein. Dans ces mathématiques, on peut apprécier plus ou moins si c'est la géométrie ou si c'est...
Bien sûr. Ouais, donc c'est vrai qu'en tant qu'universitaire, on a souvent effectué un travail en profondeur sur un sujet très fin, très petit, très pointu, qui à la fois nous rend certes compétents peut-être sur un thème, mais nous permet d'embrasser aussi l'immensité de ce que l'on ne connaît pas, de ce qu'il y aurait à appréhender. C'est vrai que quand on référence un petit peu les mathématiques, et la Société mathématique américaine a fait ce recensement-là et cette classification, il y a un très très grand nombre de branches et de brindilles et de petites feuilles qui permettent d'avoir des ramifications un petit peu partout. Et ça, c'est une très très grande richesse qu'il est sans doute assez difficile d'appréhender en tant qu'élève ou peut-être même en tant qu'enseignant lorsque l'on enseigne en collège, etc. C'est pour ça que ces journées, je pense, sont aussi l'occasion de montrer à la fois le chantier qui est toujours actif des mathématiques actuelles, mais aussi les différentes branches pour que aussi les enseignants soient porteurs d'un message que les mathématiques sont vivantes, on peut travailler dans les mathématiques, on peut prendre plaisir dans les mathématiques, pour que nos jeunes aussi s'engagent et puissent aussi rejoindre peut-être un jour notre université.
Alors, donc jeudi, donc demain, il y aura une ouverture avec une conférence qui me semble passionnante, puisque c'est les mathématiques dans l'encyclopédie Diderot d'Alembert. Alors, j'allais vous demander, cette encyclopédie, est-ce que tout ce qui est à l'intérieur est encore valide déjà? Et ensuite, qu'est-ce qui est nouveau depuis cette encyclopédie qui s'est peut-être répandue dans d'autres encyclopédies à définir?
Ah, alors là, il y aura un autre colloque, René, le mois de novembre, 12 et 13 novembre, si mes souvenirs sont bons, sur les encyclopédies en Europe. Donc là, c'est notre collègue historienne des maths, qui est à l'IREM, Rossana Tazzioli, qui organisera un colloque sur les encyclopédies, le rôle des encyclopédies, qui a été très important, et d'où l'envie de commencer par cet aperçu historique, c'est-à-dire de rassembler les connaissances. Parce que, bon, au XVIIIe siècle, au XVIIe, XVIIIe siècle, c'était des siècles, même le XIXe bien sûr, très vivants, pleins de découvertes, et effectivement, heureusement, grâce à ce travail des encyclopédies, ces connaissances ont été pu rassembler. C'est un peu déjà le premier effort, parce qu'au fond, si un scientifique ne sait pas sur qui il travaille un autre scientifique, et mettez-vous dans la peau de ces chercheurs de l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, le rôle de l'encyclopédie, c'était quand même un rôle fondamental. Alors, en France, mais bon, il y en a eu aussi ensuite en Italie, en Allemagne, donc dans d'autres pays européens. Et bon, on peut dire que c'était les Google de l'époque, disons, c'était un peu le moteur de recherche de l'époque, un peu de rassembler les informations. Donc voilà. Et le développement, c'est un peu ce qu'il disait François Rechet tout à l'heure, c'est-à-dire c'est revues américaines qui permettent, qui nous ont permis aussi de détecter toutes ces branches, plus de 5000, 6000 branches différentes en mathématiques actuellement. Donc, vous voyez, la richesse.
Est-ce que sur Internet, on peut accéder facilement, avec un moteur de recherche, à des cours de mathématiques, à des données, à des processus qui font appel au travail des mathématiciens? Est-ce que c'est développé ou bien est-ce que ça reste encore très entre soi ou dans les universités? Est-ce qu'on peut, quiconque, accéder justement à ces sites ou à ces pages de mathématiques?
Il y a un très très gros développement ces dernières années, ne serait-ce qu'en termes de littérature, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'ouvrages qui sont disponibles sur le web maintenant. Il y a aussi beaucoup de cours de collègues qui sont en ligne. Enfin, ici à l'université, nos cours sont quasiment tous en ligne, accessibles en ligne pour nos étudiants. Je pense aussi aux collègues des classes préparatoires qui mettent très souvent leurs cours, leurs exercices de colle, leurs devoirs à destination de leurs étudiants. Donc tout ce qui est effectivement au départ d'une relation peut-être d'enseignant à étudiant ou élève, c'est valable aussi pour le collège, c'est valable pour le lycée, est aussi offert à tout le monde. Et puis il y a aussi quelque chose qui se développe un petit peu ces derniers temps, c'est ce qu'on appelle les MOOC, enfin les cours massifs en ligne. Et donc j'ai eu l'occasion de participer à un MOOC qui se finit actuellement pour la deuxième fois là, sur l'arithmétique et la cryptographie. Je sais qu'il y en a d'autres en préparation, ici à Lille 1 on en prépare aussi d'autres. Ça c'est aussi une façon d'investir ce créneau qui permet d'avoir quelque chose de vivant, d'assez interactif, et qui permette aussi à ceux qui viennent chercher l'information d'avoir une certaine confiance dans ce qui est produit. Parce que, hélas, on voit aussi beaucoup de vidéos, beaucoup de petits cours en ligne, faits de façon très modeste, mais qui comportent malgré tout un certain nombre d'erreurs, voire de très grossières erreurs. Mmh.
Donc, François Rachat, vous parliez de MOOC, hein, donc je suppose que cette sonorité fait un peu américanisante.
Oui, alors il y a un acronyme français,
ouais, ouais, bien sûr,
FLO, enfin il y en a plusieurs qui
sont. Mais justement, est-ce que les mathématiques, qui sont un langage universel, ont des dominations territoriales comme ça? Est-ce que les États-Unis font peut-être aussi l'appui et le beau temps sur la recherche, par exemple, ou sur pas forcément sur l'enseignement?
Disons que là, on a quand même la chance d'avoir une école française en mathématiques qui est très reconnue de par le monde, ne serait-ce que par les dernières distinctions, notamment des médailles qui sont attribuées, différentes médailles ou différents prix, à des mathématiciens français. Concernant l'enseignement, effectivement, ces MOOC ou ces cours en ligne avec une certaine interaction, une certaine vie, autre que la page papier mise sur un écran, effectivement, viennent des États-Unis. Mais en France, pour l'instant, ça se cherche. Les collègues commencent à réfléchir à cela. Quoi qu'il arrive, l'expérience que j'en ai, c'est que ça ne remplace absolument pas le contact et le dialogue avec les étudiants. Certes, pour les étudiants qui auraient un petit peu de mal, revoir de façon un peu vivante un cours qu'ils auraient ou dont ils auraient certains éléments peut apporter effectivement une valeur ajoutée. En aucun cas, je crois que pour l'instant, ça remplacera, au moins dans notre mentalité. Là aussi, on pourrait parler de mentalité peut-être américaine ou européenne. Là, les comportements face à ces nouveaux médias sont effectivement différents. Mais actuellement, en France, je pense que notre métier d'enseignant face aux étudiants a encore de beaux jours.
Voilà, et c'est vrai que la stimulation des enseignants, c'est assez fondamental, et surtout sa façon de voir si les élèves suivent ou pas le cours. Voilà. Donc ça peut pas trop se remplacer.
Hein, non, c'est clair. C'est le présentiel.
Voilà, donc c'est deux jours, 23 et 24 avril, donc demain et après-demain, ça se passe au bâtiment de maths. C'est ouvert aux profs, je suppose.
C'est ouvert aux profs, c'est ouvert au public qui voudrait profiter de cette chose-là, puisque notre programme est en ligne. Et puis, on peut mentionner que demain, en fin d'après-midi, il y aura une conférence avec projection de deux courts-métrages qui, là, est effectivement encore plus ouvert au public. Donc, c'est à 18h.
18h au bâtiment M1 de la Cité Scientifique Université Lille 1.
seront filmées, les conférences.
Oui,
pour ceux qui voudraient retrouver les conférences, elles vont être captées par notre service multimédia et seront en ligne dès la semaine prochaine.
Super. Merci donc d'être intervenu, François Recher et Valerio Vassallo, et bonne journée de demain et d'après-midi.
Merci beaucoup.
Merci René. Et merci aussi à tous les secrétariats qui nous ont aidés dans cette œuvre, parce que c'est loin d'être une chose facile, confectionner les livrets, réserver les salles, etc., etc. Mais bon,
c'est une belle aventure.
C'est une belle aventure avec le secrétariat de l'IREM, le secrétariat de l'UFR de Marthe. Merci René.